des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles qui est mise en ligne tous les jeudis. Alors elle reste là après Ad vitam aeternam, donc si vous manquez l'émission Des livres plein les oreilles, vous pourrez vous récupérer n'importe quand. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les émissions produites par Canal M. Celle-ci, elle se dédie à la cause du livre audio qui en a bien besoin d'une émission comme celle-là pour faire parler de lui, surtout au Québec, vous le savez, où la situation n'est pas très florissante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres audio qui sont produits ailleurs et qui sont, grâce à Internet, disponibles absolument partout pour vos oreilles. Cette semaine, j'ai pour vous une nouvelle traduction et lecture de Shining. Ça m'a donné envie de vous en partager un extrait, bien sûr, mais aussi de poursuivre avec Ma vie en rouge Kubrick de Simon Roy, auteur québécois que j'affectionnais particulièrement, qui nous a quittés. Ensuite, je vais me poser la question, et nous allons nous la poser ensemble, qu'est devenu l'auteur algérien Boualem Sansal. Au moment de préparer cette émission, il a ni plus ni moins disparu des radars depuis plusieurs jours. Ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est à lui qu'on doit notamment 2084, La fin du monde. Oui, je dis bien 2084, La fin du monde, dont j'ai aussi un extrait en audio. Et puis, heureuse initiative que celle d'une dictée internationale en ligne pour la planète. Autrement dit, tout le monde est concerné, je vais vous en parler aussi un petit peu plus tard. Et puis, La Courte Échelle nous présente un livre enregistré chez Bulldog qui s'appelle Bob le Bobo. Et en seconde partie, Gérald Cousineau a lu pour nous Le Prix Goncourt, controversé en ce moment, un livre sur la sellette maintenant, Le Goncourt Ouris. On va en parler avec Gérald avant de finir avec deux nouveautés plutôt légères, ça va faire du bien dans cette atmosphère. Nouveautés signées Marc Lévy et Philippe Labreau. Mais pourquoi tout à coup avoir besoin d'une nouvelle traduction de Shining ? Évidemment, j'ai fait mes petites recherches. Eh bien, la réponse, c'est le traducteur, le nouveau traducteur qu'il a lui-même donné à la maison d'édition de cet énorme succès de M. King, Stephen King. Il a dit, ce traducteur qui s'appelle Esch, E-S-C-H, il a dit « C'est quand même scandaleux de penser qu'à l'époque où s'est sorti un livre, on parle de 20% du document original qui aurait été littéralement tronqué, banni ou mal rédigé. » Alors il dit qu'il serait vraiment temps qu'on rende à King ce qui appartient au King et une traduction digne de valeur. Un petit résumé vite fait, on est dans les montagnes rocheuses, j'imagine, là vous avez les images du film de Kubrick qui vous reviennent. Et il y a cet hôtel, ce palace, qui passe pour être l'un des plus beaux lieux du monde, qui s'appelle l'Overlook Palace. Confort, luxe, volupté, seulement voilà, en hiver, l'hôtel est fermé. Et il n'y a qu'un seul être qui habite là, c'est le célèbre et le fameux gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance, c'est un alcoolique, c'est un écrivain raté qui tente par toutes sortes de moyens d'échapper au désespoir. Et il arrive là avec sa femme Wendy et leur enfant Danny qui possède ce don qu'on appelle The Shining, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Un récit envoûtant, complètement immortalisé à l'écran un peu plus tard après la sortie par Stanley Kubrick, mais ça je vous en reparle aussitôt après l'extrait.
Je vous demandais si votre femme a bien conscience de ce qui vous attend ici. Et puis, il y a votre fils, évidemment. Il jeta un coup d'œil à la demande de candidature devant lui. Daniel, votre femme n'est pas un peu intimidée par ce projet ? Wendy est une femme extraordinaire. Et votre fils, il est extraordinaire, lui aussi? Jack sourit. Un large sourire de représentant de commerce. On aime le croire. Il est très indépendant pour un garçon de 5 ans. Ullman ne lui rendit pas son sourire. Il glissa la demande de Jack dans un dossier qui disparut dans un tiroir. Il ne restait plus sur le bureau qu'un sous-main, un téléphone, une lampe Tensor et une corbeille à courrier dont les deux bacs arrivée et départ étaient vides. Ullman se leva et se dirigea vers un classeur situé dans le coin. « Venez de ce côté du bureau, je vous prie, Monsieur Torrence. Nous allons regarder les plans de l'hôtel. » Il revint avec 5 grandes feuilles qu'il étala sur le plateau verni du bureau en noyer. Debout, à côté de lui, Jack ne pouvait ignorer l'odeur de son eau de Cologne. « Tous mes hommes portent English leather ou rien du tout. » Ce slogan publicitaire lui vint à l'esprit sans raison aucune et il dut se mordre la langue pour réprimer un éclat de rire. À travers le mur leur parvenaient, étouffés, les bruits des cuisines de l'hôtel Overlook qui retrouvaient leur calme après le déjeuner. « Le dernier étage !» déclara Ullman d'un ton brusque. « Le grenier. Il n'y a absolument rien là-haut, hormis tout un bric-à-brac. L'Overlook a changé plusieurs fois de propriétaire depuis la Seconde Guerre, et on dirait que chaque nouveau directeur a entreposé dans ce grenier tout ce qui l'encombrait. » Je veux qu'on y mette des pièges à rats et des appâts empoisonnés. Plusieurs femmes de chambre du troisième affirment avoir entendu des bruissements. Je n'y crois pas un instant, mais il ne doit pas y avoir une chance sur 100 de découvrir un seul rat à l'hôtel Overlook. Jack, qui devinait que tous les hôtels du monde accueillaient un rat ou deux, ne fit aucun commentaire. « Bien évidemment, en aucun cas vous n'autoriserez votre fils à monter dans le grenier. »« Évidemment. » répondit Jack en affichant de nouveau son sourire de représentant. Situation humiliante. Ce petit connard prétentieux croyait-il vraiment qu'il laisserait son fils faire l'andouille dans un grenier plein de pièges à rats, de vieux meubles pourris et Dieu sait quoi encore? D'un geste rapide, Ullman fit passer le plan du grenier sous la pile. « L'Overlook possède 110 chambres, déclara-t-il d'un ton de maître d'école. 30 d'entre elles, des suites exclusivement, sont ici, au troisième. 10 dans l'aile ouest, dont la suite présidentielle. 10 au centre et 10 autres dans l'aile est. Chacune bénéficie d'une vue magnifique.
Épargne-moi ton boniment. »
Mais Jack garda le silence. Il avait besoin de ce boulot. Ullman glissa le troisième étage sous les autres et ils étudièrent le deuxième étage. 40 chambres. 30 chambres doubles et 10 chambres simples. Et au premier étage, 20 chaque. Plus 3 placards à linge à tous les étages. Une réserve située au bout de l'aile est au deuxième. Et une autre au bout de l'aile ouest au premier. Des questions? Jack secoua la tête. Ullman retira prestement les plans du deuxième et du premier étage. Le rez-de-chaussée maintenant. Là, au milieu, on a la réception. Et derrière, les bureaux. Le hall s'étend sur 25 mètres de part et d'autre de la réception. Là, dans l'aile ouest, vous avez le restaurant et le bar Colorado. La salle de réception et la salle de bal se trouvent dans l'aile est. Des questions?
Et cette nouvelle traduction d'un monsieur qui s'appelle Jean Esch, là c'était lu par Julien Châtelet, m'amène automatiquement à Ma vie rouge Kubrick. Ça, c'est un livre de Simon Roy. Simon Roy, auteur québécois, qui a signé ce bouquin vraiment formidable, paru en 2016, et qui porte le nom de Ma vie rouge Kubrick. Pourquoi? Ben parce que on plonge là dans l'univers du film de Kubrick, qui a mis en image ce livre, Shining, lui né de la plume de Monsieur Stephen King. Alors on se souvient évidemment de Jack Nicholson, plus vrai que nature, qui incarne ce gardien, là, le gardien là, qui est en train de se faire engager pour vivre dans cet hôtel fermé en hiver et complètement lugubre de cet hôtel fantôme. Si vous avez vu le film ou lu le livre ou même écouté le bouquin, vous avez forcément des images qui vous reviennent en mémoire. Mais dans le cas de Simon Roy, c'est plus que ça. C'est plus que des images. Shining, le film, est tout simplement indissociable de sa vie. Je regrette infiniment qu'il nous ait quitté beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite, Simon Roy. Son écriture, moi personnellement, me manque beaucoup et j'aurais tellement eu envie qu'il découvre, comme vous peut-être, cette nouvelle traduction de Shining, version 2023 enregistrée, dont je vous ai fait entendre un extrait. Mais revenons à ce bouquin. Dans Ma vie rouge, Kubrick, hommage à Shining, que Simon Roy a revu au moins 42 fois de son vivant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'attirait autant ? C'était la relation, et là c'est plus Simon Roy qui parle, méticuleuse, entretenue avec le maléfique, qui va lui permettre à Simon Roy d'intégrer des éléments troubles de sa généalogie macabre à lui. C'est de cela dont il s'agit dans Ma vie rouge, Kubrick. C'est vraiment un très, très bon bouquin. C'est un livre, moi, qui a une place de choix dans ma bibliothèque. Et pas seulement parce que j'aime bien Simon Roy et qu'il est décédé, mais parce que j'aime ce livre, point. Alors, pour saluer la mémoire de Simon Roy et puis conserver à l'esprit qu'il est l'auteur de Ma vie rouge, Kubrick, disponible en livre audio, yeah! Réjouissons-nous, bien, on va en écouter un extrait tout de suite, lu par Francis Ducharme.
En anglais, le mot « shining » est parfois employé pour désigner un phénomène paranormal lié en général à la télépathie, comme un étrange état de fulgurance. Ainsi, des événements passés peuvent quelquefois laisser des traces et il arrive, semble-t-il, que des personnes ayant un don particulier, celles qui ont justement le « shining », puissent les percevoir. Je devais avoir 10 ou 11 ans, guère plus, la première fois que j'ai vu le film de « Shining ». C'était à la télévision, en version française. L'enfant lumière. Je n'avais aucune idée à cet âge de qui était Jack Nicholson ou Stanley Kubrick. Par contre, quelques années plus tôt, j'avais vu Shelley Duvall au cinéma de Joliette avec ma mère dans l'adaptation du film Popeye avec Robin Williams dans le rôle principal. Duvall y interprétait Olive Oil. C'était une chaude et humide soirée d'été. De l'intérieur de la maison, toute fenêtre ouverte, on entendait les grillons striduler. Il était tard, un peu après la diffusion du bulletin de nouvelles de 22 heures. Ma mère m'avait laissé seul à la maison pendant qu'elle était allée rendre visite à un couple d'amis habitant juste en face de notre petit bungalow pour une autre de leurs fameuses parties de cartes du samedi soir qui pouvaient s'étirer parfois jusqu'au milieu de la nuit. Bol de chips entre les jambes, je passais d'une chaîne à l'autre, désœuvré comme on peut l'être à 10 ou 11 ans, quand on est seul chez soi à une heure aussi tardive. Je suis tombé tout à fait par hasard sur une scène d'un film montrant un petit garçon à la coupe de cheveux carrée semblable à la mienne à l'époque, lançant des fléchettes sur une cible. Du début du film, je ne garde aucun souvenir précis, pas même des mystérieuses Sir Grady. Je me rappelle cependant être allé rejoindre d'un pas anormalement rapide ma mère chez ses amis, aussitôt après avoir vu la scène, pourtant pas si effrayante, où pendant qu'il fait visiter le garde-manger à Madame Torrance, accompagnée du garçon, le chef cuisinier, Dick Halloran, se retourne vers l'enfant et lui dit d'une voix distordue, comme au ralenti, « Tu aimes les glaces, canard ?» tout en continuant d'énumérer pour le bénéfice de Wendy Torrance la liste des aliments qu'on y stocke. L'effet de dédoublement de la voix du chef Halloran a créé en moi un malaise si puissant que j'en garde encore près de 30 ans plus tard un souvenir intact. On ne choisit pas ses souvenirs, et celui-là s'est imprimé dans mon esprit selon un procédé analogue à la création d'un fossile. J'avais beau me dire que ce n'était que des images diffusées à la télévision, mais une sensation malsaine m'avait résolument gagné, comme si l'homme noir qui avait prononcé ces paroles me regardait, moi précisément, de ses yeux de charbon, plutôt que le petit garçon nommé Danny, d'ailleurs resté quelque peu à l'écart dans le cadre de la porte de la pièce réfrigérée. D'une manière inexplicable, même si à cet âge je ne pouvais être encore dupe à ce point, c'est comme si le chef Halloran avait un moment décroché en quelque sorte de son rôle de guide de l'hôtel Overlook pour établir un lien intime avec moi et me révéler quelques terribles secrets. Une révélation allant bien au-delà d'une cordiale invitation à déguster une coupe de glace au chocolat. Je fixais les lèvres de Dick Halloran et c'était tout comme si elle se détachait de son bon visage noir pour cracher des mots qui m'atteignaient de plein fouet. Était-ce ce que l'on appelle dans le film The Shining la fulgurance?
Puisqu'on est un petit peu dans cette ambiance-là, pourquoi ne pas parler de 2084, La fin du monde, de Boualem Sansal? Où est passé Boualem Sansal, écrivain algérien âgé de 75 ans, qui, au moment où j'enregistre cette émission, est encore porté disparu? J'ose croire que dans deux semaines, quand cette émission sera en ligne, le mystère sera résolu et dans le bon sens du terme. Mais en attendant, ça regarde mal, comme on dit, parce que des proches de l'écrivain crient haut et fort qu'il aurait été arrêté par la police et emprisonné par le régime. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, Boualem Sansal ne mâche pas ses mots pour critiquer sévèrement l'islam et le pouvoir algérien. Et là-bas, c'est largement suffisant pour emprisonner quelqu'un, surtout un artiste, donc une plume comme la sienne, qui parle et qui est écoutée. Une plume qui a reçu en 2015 le Grand Prix du roman de l'Académie française pour ce livre 2084, dont on va entendre un extrait. Un livre qui lui a non seulement offert la célébrité, mais aussi la possibilité de prendre la nationalité française. Alors ce livre nous transporte en 2084, en Abistan, qui est un espèce d'immense empire. Le nom vient de son prophète Abi, qui lui est l'espèce de délégué de Yela sur Terre. Évidemment, tout ça, c'est de l'image. Un système qui est basé sur l'amnésie, sur la soumission à ce Dieu unique. Les gens oublient de toute façon au fur et à mesure et ils ont l'air mais alors parfaitement heureux. Ils sont contents comme tout, ils vivent dans le plus beau pays du monde. Refrain qu'on connaît aussi. Et c'est ça. Et il y a un personnage central qui s'appelle Ati, qui commence à mettre en doute les certitudes imposées, qui va se lancer dans des enquêtes pour savoir un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un récit débridé. C'est aussi, semble-t-il, plein d'inventions cocasses ou inquiétantes. Ça s'inscrit évidemment dans la filiation de ce que nous a offert George Orwell avec 1984. Évidemment, ça fait le procès de l'hypocrisie, du radicalisme religieux qui menace toutes les démocraties. Extrait de La fin du monde, 2084.
Comme tout un chacun, pèlerin et malade, ne manquez jamais d'être attentif, dans la crainte d'être surpris par les surveillants, peut-être les terribles V, et dénoncé comme Makouf, propagandiste de la grande mécréance, secte mille fois Oni. Ati aimait le contact de ces voyageurs au long cours, le recherchait. Ils avaient amassé tant d'histoires et de découvertes au cours de leur pérégrination. Le pays était si vaste et si totalement inconnu qu'on aurait voulu se perdre dans ses mystères. Les pèlerins étaient les seules personnes autorisées à y circuler, non pas librement, mais selon des calendriers précis, par des chemins balisés qu'ils ne pouvaient quitter, jalonnés de haltes plantées au milieu de nulle part, des plateaux arides, des steppes sans fin, des fonds de canyons, des lieux dits sans âme, où ils étaient comptés, divisés en groupes comme les armées en campagne qui bivouaquent autour de 1000 feux de camp, dans l'attente d'un ordre de rassemblement et de départ. Les pauses duraient si longtemps parfois que les pénitents s'enracinaient dans d'immenses bidonvilles et se comportaient comme des réfugiés oubliés, ne sachant plus trop ce qui la veille nourrissait leurs rêves. Dans le provisoire qui dure, il y a une leçon. L'important n'est plus le but, mais la halte, fût-elle précaire. Elle offre repos et sécurité, et ce faisant, elle dit l'intelligence pratique de l'appareil et l'affection du délégué pour son peuple. Des soldats apathiques et des commissaires de la foi tourmentés et vifs comme des suricates se relayaient le long des routes, en des points névralgiques, pour regarder passer les pèlerins avec l'idée de les surveiller. On ne sache pas qu'il y ait eu un jour une évasion ou une chasse à l'homme. Les gens allaient leur chemin comme on leur disait, ne traînant les pieds que lorsque la fatigue les gagnait et commençait à éclaircir les rangs. Tout était bien réglé et finement filtré. Il ne pouvait rien advenir hors la volonté expresse de l'appareil. On ne sait pas les raisons de ces restrictions. Elles sont anciennes. La vérité est que la question n'avait jamais effleuré un quelconque esprit. L'harmonie régnait depuis si longtemps qu'on ne se connaissait aucun motif d'inquiétude. La maladie et la mort elle-même, qui passaient plus qu'à leur tour, étaient sans effet sur le moral des gens. Yeula est grand, et Abi est son fidèle délégué. Le pèlerinage était le seul motif admis pour circuler dans le pays, excepté les nécessités administratives et commerciales pour lesquelles les agents disposaient d'un sauf-conduit devant être composté à chaque étape de la mission. Ces contrôles, qui se répétaient à l'infini et mobilisaient des nuées de guichetiers et de poinçonneurs, n'avaient pas davantage de raison d'être. Ils étaient une survivance de quelque époque oubliée. Le pays vivait des guerres récurrentes, spontanées et mystérieuses, cela était sûr. L'ennemi était partout. Il pouvait surgir de l'est ou de l'ouest, tout autant que du nord ou du sud. On se méfiait, on ne savait à quoi il ressemblait, ni ce qu'il voulait. On l'appelait l'ennemi. Avec un accent majuscule dans l'intonation, cela suffisait. On croit se souvenir qu'un jour, il a été annoncé qu'il était mal de le nommer autrement. Et cela avait paru légitime et si évident, il n'y a censément aucune raison de mettre un nom sur une chose que personne n'a jamais vue. L'ennemi prit une dimension fabuleuse et épouvantable. Et un jour, sans qu'aucun signal ne fût donné, le mot « ennemi » disparut du lexique. Avoir des ennemis est un constat de faiblesse. La victoire est totale ou n'est pas. On parlait de la grande Mekkouf, mot nouveau signifiant renégat invisible et omniprésent. L'ennemi intérieur avait remplacé l'ennemi extérieur, ou l'inverse.
Extrait de 2084 de l'écrivain algérien Boualem Sansal, le porté disparu, je vous le rappelle, au moment où j'enregistre cette émission. Et c'était lu par ou Thierry ou Pierre Ancis, l'un des deux. Autre chose maintenant, et si les fautes d'orthographe pouvaient sauver la planète, laissez-moi vous parler d'un concept incroyable qui est celui de rassembler depuis chez eux des milliers de personnes issues de tous les horizons, étudiants, professionnels, retraités, curieux ou simplement passionnés, pour participer en ligne à quoi ? À une dictée, les amis, une dictée solidaire. L'événement aura lieu en direct à 12h, autrement dit à midi, mais ça c'est heure de France, le 19 décembre, autrement dit à 6h du matin, ici en tout cas dans notre fuseau horaire à nous. Mais bon, ça vaut le coup de se lever de bonne heure et ça va se dérouler, ma foi, dans une atmosphère qu'on nous prévoit très ludique et très engagée. On nous dit que le texte sera spécialement rédigé pour l'occasion, qu'il sera le texte de la dictée, un manifeste pour le climat, à la fois piquant, drôle et truffé de subtilités grammaticales pour piéger même les plus aguerris. Alors, comment on participe à ça ? Il suffit de s'inscrire via un formulaire en ligne. Si vous cliquez simplement « Grande dictée, team comme équipe et planète » écrit en anglais, donc planet.com, vous allez pouvoir vous inscrire et participer à cette dictée internationale le 19 décembre prochain à 6h du matin ici au Québec. Ah, j'oubliais, pour chacune de vos fautes, il vous en coûtera 4,50$ qu'on ajoutera dans une cagnotte planétaire pour sauver notre pauvre Terre.
La dictée, il faut bien s'appliquer. Écoute bien tous les mots et tu seras bientôt un héros. Petit essai par ici, un accent par là, tu vois. Si tu fais bien attention, tout ira comme une chanson. La dictée, il faut bien s'appliquer. Écoute bien tous les mots et tu seras bientôt un héros.
Ça m'amène vers Bob le Bobo. Bob le Bobo Or. Les libraires du Québec adorent ce petit livre pour enfants. C'est vraiment un adorable petit bobo. Mais le petit bobo, oui, celui qu'on se fait parfois sur les genoux, vous savez. Il est seul, petit bobo est tout seul, lui, il s'ennuie. C'est pas toujours facile de se faire un ami quand on est un bobo. Alors peut-être que le petit garçon qui vient de tomber de son vélo va accepter de l'adopter, le petit bobo. Ainsi va débuter une grande histoire d'amitié appelée à sans cesse se renouveler. Ce personnage absolument craquant est né de l'imagination de Mélina Schönborn et c'est à Didier Lucien qu'on a confié la narration au studio Bulldog.
Bob est un bobo, un adorable petit bobo. Bob le bobo s'ennuie. Il a froid. Il aimerait bien trouver un endroit douillet où s'installer. Bob décide d'aller se promener. Bob aperçoit une petite fille qui fait de la planche à roulettes. Elle saute dans les airs. Elle va probablement tomber bientôt. Oui, 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 oui. La petite fille trébuche. Elle a déjà plusieurs bobos sur les coudes. Peut-être que Bob pourrait se joindre à eux.
Hé, les gars, je peux jouer avec vous?
Oust, tu ne vois pas qu'il n'y a plus de place ici. Va-t'en.
Bob poursuit sa route. Il croise un vieux monsieur qui marche avec une canne. Le monsieur se cogne le pied contre une clôture.
Bing!
Oui, oui, oui.
Bonjour, monsieur. Je suis Bob le Bobo. Vous avez sûrement mal au pied. Est-ce que je peux vivre sur votre orteil?
Non, pas un bobo. Je suis bien trop vieux pour ça. J'ai besoin de toutes mes forces.
Bob continue son chemin.
C'est vraiment délicieux, Bob le Bobo. C'est édité par La Courte Échelle, enregistré au studio Bulldog avec la voix de Didier Lucien. Ça a été écrit par Mélina Schönborn. Je vous recommande très, très fort de rester à l'écoute parce que je vais bientôt parler avec Gérald Cousineau qui a écouté l'audio, le livre audio du nouveau prix Goncourt 2024, Ouris. Écrit par Kamel Daoud. Alors, j'ai bien hâte de savoir ce qu'il en a pensé. Puis, juste après, deux nouveautés légères, deux nouveautés de livres qui se lisent bien. Comme je dis toujours, pas des chefs-d'œuvre, mais des bons bouquins par un dimanche de pluie. À tout de suite. Ouris, prix Goncourt 2024, existe déjà en livre audio. Je le précise parce qu'il fut un temps pas si lointain où il fallait attendre tellement longtemps avant de pouvoir se procurer un prix, quel qu'il soit, ou en tout cas un livre dont tout le monde parlait. Bah oui, tout le monde en parlait, mais en audio, tout le monde l'attendait. Mais ça n'est plus vrai maintenant. Et Gérald Cousineau l'a écouté pour nous et il va nous en parler, bien sûr. Nous évoquerons ensemble, mais très, très brièvement, les poursuites en ce moment qui ont lieu contre Kamel Daoud. Et puis, quand vous écouterez Ouris, moi, la question que je me pose, c'est son auteur, Kamel Daoud, aura-t-il encore le prix Goncourt ou est-ce que ça peut aller jusqu'à lui retirer? Pour l'instant, il n'en est pas question, mais sait-on jamais. On va finir avec deux nouveautés en audio. La librairie des livres interdits de Marc Lévy et de la romance avec Philippe Labro. C'est facile, c'est léger, ça se lit bien les jours de pluie. Alors, Oura, il a lu Ouris. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Alors, ce prix Goncourt 2024, signé Kamel Daoud, qu'en avez-vous pensé, vous, mon ami?
Ben d'abord, Camille Daoud, un écrivain franco-algérien, né en Algérie en 1970, donc il est relativement jeune, il a 54 ans. Mm-hmm. Moi, j'avais beaucoup aimé son premier livre. Il y a 10 ans maintenant, il avait publié « Meursault contre Anquin ».
Ah oui, je me souviens.
Étrangement, ça avait gagné le concours du premier roman.
Ah!
J'avais beaucoup aimé ce livre qui était une sorte de hommage à l'envers, à l'étranger d'Albert Camus.
Oui,
Et il a publié ensuite un livre sur, il y a le mot psaume dedans. Et là, le troisième roman, bien sûr, Ouris. Ouris, fait référence aux 72 vierges du paradis de l'islam, réservées aux fidèles parmi les fidèles, bien sûr. Donc, Ouris est également, je le dirai tout à l'heure, donc Ouris, nous sommes bien sûr à Oran, nous sommes à Oran en Algérie, et nous avons une jeune femme de 21 qui s'appelle Aube, A-U-B-E, elle est enceinte un peu par accident, et là, elle a été à 5 ans égorgée et laissée pour morte par des islamistes, parce que nous étions en 1999. D'ailleurs, elle va citer la date deux ou trois fois, le 31 décembre 1999, dans son village au nord-ouest de l'Algérie, près de 1000 personnes, dont sa famille, sont tuées par ce qu'elle appelle les égorgeurs de Dieu, et elle-même est égorgée et laissée pour morte, mais elle ne meurt pas. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui va lui en rester? Une cicatrice. Elle a les cordes vocales coupées, et il lui reste une cicatrice de 17 centimètres. Elle respire par une canule dans la gorge, donc c'est ça, les stigmates de cet attentat qu'on commet contre elle en 1999. Donc, elle est à Oran, elle est enceinte, et elle va vouloir faire un pèlerinage dans son village natal, là où tout a commencé, là où elle va espérer avoir les réponses des morts. Que les vivants ne veulent pas en parler, parce que, allons-y tout de suite, en Algérie, en 2005, on a promulgué la loi de la réconciliation, comme quoi il était maintenant interdit de ternir l'image de l'Algérie en parlant de la fameuse décennie noire, c'est-à-dire 1992-2002. Et pourtant, il y aurait eu à peu près 200 000 morts.
C'est quelque chose, quand même.
Alors qu'en Afrique du Sud, au Rwanda, on n'a pas demandé le silence, on en a parlé. En Algérie, non. Et les jeunes de 15 ans ne savent même pas qu'il y a eu une décennie noire en Algérie. C'est incroyable.
Et mon Dieu.
C'est comme ça. Donc, on va faire ce pèlerinage dans son village natal. Elle va rencontrer des gens qui ont également connu ces années-là. Mais le plus important, c'est cette espèce de charge que Daoud fait contre l'islam radical qui, selon lui, s'installe de plus en plus en Algérie. Et là, il y va à fond de train. Bien sûr, les femmes sont le plus souvent...
Elles sont sur la ligne de front, évidemment.
La ligne de front, mais toujours, bien sûr. Et là, j'ai bien aimé l'expression d'un critique qui va dire que Daoud va... les islamistes vont beaucoup fantasmer sur les femmes au paradis. Donc, des femmes qui n'existent pas, mais ils vont haïr les femmes qui existent, les femmes sur Terre, leurs compagnes. Ça m'a paru très fort, et je pense que c'est exactement ça. Pensons aux kamikazes. Ils sont prêts à mourir parce que 72 vierges les attendent au ciel. C'est incroyable comme image, quand même.
Oui, c'est fou. Est-ce qu'on est touché par ce bouquin? Avez-vous été touché, vous, par ce livre-là? Avez-vous été... parce que j'ai entendu tout et son contraire. Hein. Alors, c'est pour ça que je demande...
Ému? Ému, si choqué est une émotion. J'ai été ému, oui. Parce qu'effectivement, quand on pense à tout ce que les femmes en Algérie recommencent à subir, et ne serait-ce que durant la décennie noire, c'est vraiment choquant. Et même, il y a des passages où la prose est quasi insupportable. Parce que Aube va rencontrer un libraire en route pour son village, elle va rencontrer un libraire qui lui va lui raconter des choses horribles, mais proprement horribles. Et là, c'est quasi insupportable. Alors que d'autres passages sont plus poétiques. Mais effectivement, on passe brutalement de la poésie à l'horreur. Je rappelle que Daoud est journaliste. Il a été longtemps à Oran, au quotidien d'Oran. Et donc, il y a le journaliste, mais on est le journaliste l'emporte sur le romancier. Il va décrire les faits, il va dire exactement où ça s'est passé. Donc là, le journaliste vraiment domine le romancier.
Mais, est-ce qu'on écoute un petit extrait? Je vous en
donc,
prie, on va...
Aube.
Oui, c'est ça. On va faire connaissance un petit peu.
Pardon, j'avais oublié.
Mais c'est pas grave.
Emporté.
Dans la lumière, j'apparais comme une femme de taille élancée, exténuée, à peine vivante, et mon immense sourire figé ajoute au malaise de ceux qui me croisent. Ce sourire, illimité, large, presque 17 centimètres, n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Il est un peu plus bas que le bas de mon visage et étire mes mots, mes phrases. Parfois, je le cache avec un foulard coloré. Le tissu, je le choisis toujours onéreux et rare. Je relève mes cols. Parlons, puisque l'occasion est inédite. Car oui, tu es l'événement que je n'ai jamais imaginé. Il m'arrive du ciel, sur la tête, avec la précision d'une météorite sur le crâne d'un prophète affligé. Bavardons, sans nous arrêter. Si je me retiens, je devrais ôter la vie sans cérémonie, crûment, presque dans l'insouciance, comme un boucher qui bâillerait sur la carcasse d'un mouton. Je veux dire, fendre le sac qui te contraint et où tu gigotes, et laisser filer le peu de vie que tu as fini par amasser. Tu n'es pas en vie d'ailleurs, médicalement, ni une morte du point de vue de Dieu. Quant à moi, peut-être que j'ai déjà tué une âme innocente. Peut-être pas avec les mains, mais avec les paupières, en fermant les yeux.
Est-ce que c'est un... Bon, évidemment, cette cicatrice, mais ça, c'est juste l'apparence. Mais le problème aussi, c'est qu'elle n'a pas de voix, évidemment, elle ne parle plus.
Elle est muette, effectivement, elle a un filet de voix, mais ce sourire, d'ailleurs, l'extrait dit « sourire illimité », parce que ce sourire ressemble davantage à un rictus, et ça fait peur aux gens qui la croisent, bien sûr. Et c'est pour ça, entre autres choses, qu'elle songe à avorter. Maintenant, le fera-t-elle? On ne le sait pas. Elle semble plus encline à ne pas le faire. Pourquoi donner la vie alors que cette Houri, elle l'appelle comme ça, parce qu'elle pense qu'elle est enceinte d'une petite fille, qu'elle appelle ma Houri. Donc, elle se dit, pourquoi la mettre au monde alors qu'elle est comme condamnée avant même de naître? Parce qu'elle est en Algérie, justement.
OK. Je viens de m'apercevoir que moi, j'appelle ça Houris tout le temps, mais donc je fais une erreur. C'est Houri que j'aurais dû dire depuis le début.
J'ai cru le voir au singulier, donc quand elle parle à sa fille. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on prononce S, peut-être?
Peut-être. Ben, de toute façon, peu importe, on sait de quoi on parle, vous et moi. Vous savez que c'est assez surprenant, il y a toujours ces hasards dans cette émission-là. En première partie de l'émission, j'ai parlé d'un autre auteur algérien qui s'appelle Boualem Sansal.
Voilà.
Et Boualem Sansal,
On l'a arrêté.
Oui, on l'a arrêté, c'est ça. Lui qui a écrit 2084, La fin du monde, dont j'ai d'ailleurs diffusé un extrait. Comme je le disais à nos auditeurs, au moment d'enregistrer cette émission, il semble qu'il ait été mis aux arrêts, qu'il soit emprisonné. Oui. Je ne sais pas dans deux semaines quand elle sera en ligne où est-ce qu'il en sera, mais je me suis dit, tiens, c'est quand même fou qu'on parle de Houri ou Houris de Kamel Daoud à la même émission finalement. Êtes-vous
Daoud qui vit en France maintenant?
Oui, c'est ça. L'autre aussi d'ailleurs, il a la double nationalité aussi. De toute façon, c'est ça, c'est comme voilà.
Mais qu'est-ce qui se passe avec notre ami Kamel Daoud, madame?
Les nouvelles que j'en ai encore une fois, au moment d'enregistrer cette émission, ce sera peut-être différent quand ça va être en ligne dans deux semaines, mais pour l'instant, il est accusé, l'auteur franco-algérien, d'avoir exploité l'histoire personnelle d'une jeune femme qui s'appelle Saada Arban, pour en faire donc un livre. Cette femme-là a été la réelle victime d'un des épisodes sanglants de cette décennie noire que vous évoquiez un petit peu plus tôt. Et le pire là-dedans, c'est qu'elle ne prétend pas que c'est à cause d'elle et que c'est parce qu'elle lui a parlé à lui, mais c'est parce qu'elle se serait confiée à sa psychanalyste qui n'est nul autre que la femme de Kamel Daoud. Alors, qui évidemment, là c'est le secret médical qu'aurait été, alors c'est terrible, qu'aurait été bafoué quoi. Alors, évidemment, Antoine Gallimard, qui a édité ce livre-là, oui, a dénoncé, c'était pas vieux, le 18 novembre dernier, les attaques diffamatoires à l'encontre de son auteur. Donc, Kamel Daoud, accusé, je vous le disais, par cette victime-là, d'avoir exploité, oui, son histoire, très bien. Et il a déclaré, Antoine Gallimard, si Houry s'est inspiré de faits tragiques survenus en Algérie durant la guerre civile des années 90, son intrigue, ses personnages et son héroïne sont purement fictionnels. Voilà, c'est comme ça qu'il dédouane Kamel Daoud. Mais vous savez que c'est terrible parce que depuis la publication de son roman, Daoud, non seulement, oui, ok, il a été primé, son bouquin doit se vendre comme des petits pains, donc il doit, oui, faire beaucoup d'argent, mais il a reçu aussi beaucoup de merdouilles, si j'ose m'exprimer, parce qu'il fait l'objet de violentes campagnes diffamatoires qui seraient orchestrées par certains médias proches d'un régime dont, entre guillemets, nul n'ignore la nature. Ah bon. Autrement dit, j'imagine qu'aussi il doit avoir peut-être un peu peur, monsieur oui, Daoud. Je pense qu'il est mieux, effectivement, de rester en France quand on voit ce qui est arrivé à son camarade Sansal, là. Alors voilà, donc, l'histoire en ce moment qui
c'est bien triste.
Oui, c'est bien triste, parce que si c'est vrai, c'est vraiment pas joli d'avoir fait ça.
Parce que rien n'est à peine entamé. Il a juste trois livres à son actif.
Ben, c'est ça. Et il y a des faits qui... Oui, c'est quand même terrible parce que la jeune fille a elle-même été atteinte, elle a elle-même été égorgée.
Voilà.
Alors, il y a beaucoup comme ça de similitudes, oui, dans les jours, dans les... Alors, elle dit, voilà, c'est... Voilà. Et le pire, là-dedans, c'est qu'elle raconte, cette jeune femme, qu'elle avait été invitée par Madame Daoud à prendre un café chez eux. Bon, ça me surprend toujours de voir, oui, qu'un psychanalyste puisse faire ça et que la patiente dise oui, mais bon. Kamel Daoud, à ce moment-là, aurait demandé à cette jeune femme s'il était possible de raconter son histoire dans un roman. Elle avait refusé. Voilà. Alors, c'est là qu'on en est. Qui dit vrai, je ne sais pas, mais est-ce que ce livre était honnêtement goncourable, je veux dire, est-ce que vous êtes dit oui, c'est quand même un excellent bouquin et on, oui, comprend bien pourquoi est-ce qu'il a reçu le prix Goncourt, parce que c'est quand même ça aussi qui est important, non?
Courageux aussi.
Courageux.
Si on oublie le scandale d'après, là, c'est quand même, oui, courageux parce qu'il fait une charge à fond de train contre l'Algérie d'aujourd'hui.
Ah oui.
Et donc, il transgresse la fameuse loi qui interdit qu'on parle, oui, de cette fameuse décennie noire. Alors, ouais, d'où le fait qu'il vit maintenant en France, évidemment.
Non, c'est ça. Il prend des risques lui-même, ah oui, et au lieu de le féliciter, on est en train de l'enfoncer, le bonhomme. Mais, bon... La conclusion de ça ne nous appartient pas. On va suivre ça avec intérêt là, avant les fêtes. Cher Gérald, merci beaucoup d'avoir lu ce livre pour nous. Donc, ce prix Goncourt 2024, Houris, de Kamel, ouais, Daoud. C'était lu, là, l'extrait que nous avons entendu. En fait, le livre a été lu chez Gallimard, écoutez lire, par Lola Neymark. Voilà.
Bien lu, d'ailleurs.
Bien lu, hein. Salut, Gérald. On se retrouve juste avant Noël avec une de vos petites préférées, je pense, Sandrine, d'accord, Colette. Vous l'aimez, elle. Oh, oui, qu'il beaucoup l'aime, celle-ci. Allez, salut.
Salut.
Au chapitre des nouveautés, des livres, ben, j'ai pensé qu'un petit peu de légèreté, puis de livres faciles à lire nous feraient du bien. En voici deux livres qui se lisent facilement, sont-ce des chefs-d'œuvre, je ne sais pas, mais ce sont deux bons bouquins pour des dimanches ou des soirs de pluie, ça c'est certain. On commence avec du Marc Lévy, avec la librairie des livres interdits, produit chez Lizzie, qui nous emmène dans l'univers de Mitch, qui est un libraire passionné, qui est arrêté un matin pour un crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Alors il va faire 5 années de prison et il n'a qu'un seul désir, évidemment, c'est retrouver sa liberté et sa chère librairie. Mais le destin va en décider autrement. Parce que le même jour de sa libération, apparemment, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner. Et, ah, ben je peux pas tout vous dire, mais ici aussi, il va rencontrer une femme qui s'appelle Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. C'est un roman, nous dit un lecteur de chez Babelio, sans doute parfait pour pénétrer dans l'univers de Marc Lévy. L'homme ou la femme qui écrit ça n'avait jamais lu du Marc Lévy et il dit vraiment c'est bien fait. Et puis bon, la résonance de ce livre pour ce libraire qui transgresse les lois en vendant des livres interdits, forcément ça nous ding, 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 ça nous titille l'oreille. Alors extrait de ce livre, La librairie des livres interdits, écrit par Marc Lévy, lu par Sylvain Agès chez Lizzie.
Chapitre 1. Mitch. Il se tenait debout, devant la table en bois, le dos un peu voûté pour remplir son verre sans en verser à côté. La radio jouait un air venu de loin, un mariage de rap et de bossa nova, aussi bâtard que le chat de gouttière qui avait élu domicile dans la courette, derrière la librairie. Mitch l'avait découvert à sa sortie de prison, un mois plus tôt. L'animal avait dû s'y installer pendant qu'il purgeait sa peine. En 5 ans d'absence, une épaisse couche de poussière s'était invitée à l'intérieur et un matou patibulaire à l'extérieur. Comme on ne lui avait rien volé, Mitch, dont l'esprit rêveur ne manquait pas d'imagination, en avait conclu que le félin avait veillé sur les lieux et dissuadé les rôdeurs. De quoi s'attacher à lui et le nourrir le soir avant de fermer boutique. Le chat, d'abord méfiant, avait fini par se laisser approcher. Mais malgré tous les efforts du libraire, il n'avait jamais voulu entrer dans la réserve. Même les nuits où la pluie tombait de rue. Mitch découvrait sous la plume d'Hemingway, de Yeats, de Bowles et d'autres, des phrases ou expressions que son paternel avait faites siennes. Des mots simples, comme il les aimait. Quand Mitch, adolescent, l'avait interrogé sur l'existence de Dieu, son père lui avait répondu « Le scepticisme commence quand, assis dans une église, entre un flic et une bonne sœur, tu constates que ton portefeuille a disparu. » Un soir où il se rebellait contre ses professeurs, il l'avait consolé en lui disant « Regarde-moi, je survis, j'endure. » Il avait marqué une pause. « Je garde le contrôle de la situation. » Et tel un remède infaillible aux inquiétudes de sa femme quant aux fins de mois, il répétait « Ne te fais pas de bile, veux-tu, tout se passera bien. » À l'imprimerie, comme dans leur quartier, les gens considéraient avec amusement étonnement et parfois suspicion, la façon de parler de son père. En fin de compte, Mitch était probablement celui qui le comprenait le mieux, même s'il n'avait jamais réussi à savoir si les humeurs de son vieux, car le travail l'ayant usé plus vite que nature, il avait fini par le devenir, était ou non emprunté à une œuvre de fiction. 3 semaines après l'accident fatal, sa mère avait revendu le pavillon familial et s'était installée au bord de la mer. Mitch s'était vu remettre par un notaire un tout autre héritage, plus modeste, sous la forme d'économies placées sur un compte d'épargne dont il était le légataire. Pas vraiment un pactole, mais une cagnotte suffisante pour qu'il s'offre un petit studio. Et à son père, une sépulture plus belle que le rectangle de pelouse sous lequel il reposait. Mitch avait dépensé jusqu'à son dernier sou pour lui construire un temple qui le rendrait éternel. Une jolie librairie, située à 2 pas de la gare. Ce n'était pas par hasard qu'il avait choisi ce local, les trains de banlieue ayant consumé une grande partie de l'existence de son père. 2 heures le matin, autant le soir, qu'il consacrait entièrement à la lecture, ratant même parfois son arrêt. Des milliers d'aubes et de crépuscules avalés à travers la vitre, assis sur une banquette, loin du confort d'un fauteuil de salon. Mais, comme il se plaisait à le répéter, « Avec moi, les livres voyagent ». Une citation dont Mitch n'avait pas encore identifié l'auteur. En cette soirée de printemps où le ciel bleu avait grignoté les nuages, Mitch avala d'un trait le gin qu'il s'était servi. L'alcool le fit tousser. Il n'avait aucun penchant pour la boisson et ne buvait que pour nettoyer sa gorge des impuretés ingurgitées au cours d'un grand ménage. Depuis sa sortie de prison, il occupait son temps à récurer les tables, poncer et revernir le comptoir, frotter le parquet, dépoussiérer les bibliothèques, époustait chaque livre avec un chiffon sec, afin d'en raviver les tranches et les couvertures. Demain dimanche, il s'attaquerait à la dernière touche, et lorsque la vitrine aurait retrouvé sa transparence, il s'accorderait une après-midi de repos. Viendrait alors enfin le jour de la réouverture officielle. Les murs de la librairie et du studio qu'il occupait en banlieue lui appartenant, Mitch avait de quoi maintenir son commerce à flot, à condition de faire attention, à condition aussi que la clientèle revienne. Heureusement, sa condamnation n'avait pas été assortie d'une amende ou d'une saisie de ses biens. Le juge avait dû estimer que lui confisquer 5 ans de vie était suffisant.
C'est du Marc Lévy, la librairie des livres interdits en livre audio, lu par Sylvain Agès. Un nouveau livre aussi qui se lit, ma foi, fort bien. Là, on est un petit peu dans la romance. Signé Philippe Labrault, un grand amateur des États-Unis. Cette fois-ci, il signe d'ailleurs 2 gimlets sur la 5e avenue, c'est vous dire. Il adore spécifiquement New York. C'est lu par Grégory Baquet dans la collection Écoutez lire de chez Gallimard. Ça commence en 1961 à Paris. Elisabeth et Lucas se séparent au pied de la Tour Eiffel. En 2001, ils se retrouvent à New York. Ils se croisent par hasard à Central Park. Ils se retrouvent au bar du Sherry Netherlands sur la 5e avenue où ils commandent quoi ? Je vous le donne en mille, un gimlet. 2 gimlets sur la 5e avenue, écrit La vie en livre, ça c'est un blog qui fait souvent paraître des critiques sur le site de Babelio. Un rendez-vous manqué, on aurait pu se revoir, on aurait ou continuer, ce n'était pas la peine, etc., etc. Mais oui, des vies qui avancent au gré des événements qui se jouent aux États-Unis et dans le monde pendant 4 décennies. Lucas est un caractère singulier, un bonhomme qui se cherche, il est dans l'exubérance ou la pudeur, bon à rien, bon à tout, insolent. Elisabeth, elle, femme à la veste rouge, beauté tranquille et rayonnante, qui a déjà atteint l'autre rive, deux êtres qui se sont aimés profondément et qui arrivent au point de non-retour. Ben oui, 40 ans quand même, hein, ça laisse des traces. Avec une certaine mélancolie, que fait-on de nos vies ? Je vous propose un extrait de ce livre, je vous le rappelle, signé Philippe Labrault, 2 gimlets sur la 5e avenue.
Quand on lui demandait sa taille exacte, il mentait, trichait et disait 1m80. Mais ce n'était qu'1m77. Il mentait souvent. Il le savait. Il ne pouvait s'en empêcher. Je suis un fraudeur, un faux monnayeur. Je donne le change. Il avait déjà appris à s'autocritiquer, ce qui aux yeux de ses amis le rendait sympathique, voire émouvant. Ils avaient l'air jeunes tous les deux. On leur aurait donné quoi, entre 20 et 23 ans. Ils s'avançaient lentement, côte à côte, dans l'allée conduisant à la Tour Eiffel, le long de la vaste pelouse. Vu de haut, ils ressemblaient à 2 convalescents qui font un tour dans le parc d'une clinique. Marche lente, hésitante. Où va-t-on ? Ça veut dire quoi ? Le ciel était gris, gris-blanc, lavé par des pluies récentes. On pouvait voir quelques flaques d'eau ici et là sur le sol. Le vent soufflait de la rive droite, à la hauteur du quai de New York. La Seine avait des couleurs de goudron. Lucas enregistrait la moindre de ces choses. Il était gagné par la certitude que tout, autour de lui, prenait une importance considérable, qui ne devrait oublier aucun de ces instants. Cet environnement, le champ de Mars, vert et calme, quelques passants, une vieille dame avec un cabas, des enfants silencieux, ces odeurs d'herbe mouillée, et puis ce parfum qui émanait d'Elisabeth et qui lui était inconnu. Avait-elle changé de parfum ? Ces effluves d'automne autour d'eux, il lui fallait tout enregistrer, tout posséder, tout prendre à son compte, ne rien laisser s'égarer, se volatiliser, poussière du temps, poudre de riz. Il pensait qu'il était au cœur d'un événement capital, un tournant dans sa vie qu'il jugeait incohérente. Il avait la modestie de comprendre que, pour l'heure, il n'était pas une grande personne. Lucas dit à Elisabeth « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Il se rendit compte qu'il avait déjà posé cette question, mais il n'avait reçu aucune réponse. Elle prenait son temps, comme si elle jouait avec ses impatiences. « Oh, des tas de choses » finit-elle par dire avec une voix douce comme murmurant.
Je travaille beaucoup. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, je fais des dessins, des décorations, des vitrines. Je suis très occupée. Ça marche très bien et j'en suis très contente. Je gagne bien ma vie. Ça va fort. C'est très intéressant. Il croyait qu'elle en rajoutait un peu. Quand les gens vous disent que ça va fort, cela veut dire que ça ne va pas tellement fort. Son ton lui avait semblé un peu mélancolique. Mais il pensa aussitôt qu'il se trompait. Il s'était tellement trompé sur elle. Il l'aurait voulu malheureuse, impuissante, égarée. Et sa tranquillité le désarçonnait. « Et pourquoi tu ne m'as jamais appelé? J'aurais pu t'aider, peut-être. Tu sais, je connais des tas de gens dans tous ces milieux-là. » « Ce n'était pas la peine, » dit Elisabeth. Lucas insista. « On aurait pu se revoir. On aurait pu recommencer. »« Ce n'était pas la peine, » répondit-elle.
La voix de Grégory Baquet lisant « Deux Gimlettes sur la 5e avenue » de Philippe Labrault. C'est le dernier livre pour aujourd'hui dont je vous fais entendre un extrait à cette émission « Des livres pleins les horaires » réalisé, animé pour vous par Clotilde Seil, avec comme toujours l'appui souriant et tellement intelligent de l'ami Mathieu Tessier. Merci à vous d'être là et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne lecture en audio, pourquoi pas.